sommeillant, je vois la nuit des crimes lourds où l'on saigne. Pauvre moi, pauvre de moi, l'outre est pleine à craquer. Au matin, comme il est âcre, le goût du vin maudit va. Dépense tout mon crédit, car j'aurai soif aujourd'hui. Et rien ne va, plus rien ne va, pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va, pour vivre comme un homme doit. Dans tous les cabarets sans fond, où je m'enterre chaque nuit, je suis l'empereur des bouffons, le frère de n'importe qui. Je vais vomir mon repentir au pied de tabernacle. Mais comment prier dans la fumée de l'encens des diacres? Rien ne va plus, rien ne va, pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va, pour vivre comme un homme droit. Et comme un vieux loup dans les bois, en fuyant le pire, je suis resté tout seul avec moi, près de les montagnes où l'on respire. C'est là que je voulais trouver un air nouveau, plus haut, mais qui reconnaît de loin un vrai sapin d'un faux sapin? Rien ne va, plus rien ne va, pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va, pour vivre comme un homme droit. Loin de tout manège, je suis ma vie, en laissant ma trace dans la neige, pour qu'il me retrouve, l'ami qui me suit. Loin de tout cortège, ah, venez, les mémos, venez par ici. Devant et derrière, nous n'avons que faux amis, faux amours, faux frères. Vois-tu les sorcières ici ou là, dans la forêt qui bouge? Vois-tu le bourreau tout là-bas avec son habit rouge? Plus rien ne va ici déjà sur mon chemin de terre. Mais j'ai bien peur que l'au-delà ressemble à un enfer. Rien ne va plus, rien ne va, pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va, pour vivre comme un homme.
Bonsoir, nous nous retrouvons ce soir pour la 7e émission consacrée à Elsa Triolet avec Maria Berlioz et Jean Knopf. Bonsoir à vous. Et donc de l'association, de la Société des Amis de Louis Aragon, Elsa Triolet. On vient d'écouter une chanson de Vladimir Vysotsky, C'est level pour les paroles françaises, Marina Vladi pour la musique. Je pense que c'est une complaisance qu'il a fait pour les droits d'auteur, ça. Mais de Vysotsky, bon, peut-être Maria et Jean vous en diront plus, et sur la raison aussi de ce choix qui est en lien thématique avec le thème de notre émission de ce soir, le passage à la langue française de Elsa Triolet. En préambule, je dirais encore un mot, une petite correction. La dernière fois, on avait énoncé ici que le disque Ferré-Aragon n'était fait que de poèmes pris dans le roman inachevé. Mais c'est pas tout à fait exact. Il y a « Je t'aime tant » qui était extrait de Elsa et « Blues » qui est dans Les Poètes. Voilà. Alors pour les amateurs d'Aragon et de Ferré, il convenait que cette rectification soit faite. À partir de là, je vous donne la parole. À partir de là, je vous donne la parole et on va donc reparler ce soir, bien sûr, de Elsa, mais aussi de Maïakovski, enfin, À vous.
Oui, bonsoir. Ce soir, on va survoler 10 ans de la vie d'Elsa, c'est-à-dire plus précisément de 1928 à 1938. Il va se passer un événement capital, c'est que Elsa va abandonner sa langue, le russe, pour écrire en français. Alors évidemment, c'est un choix crucial. Alors si on remonte à 1928, c'est l'année de parution de Camouflage, qui est ce récit plus ou moins autobiographique, hein, on dirait aujourd'hui d'autofiction, qui, de l'aveu général, n'est pas très réussi. Hein, c'est pas, si elle n'avait écrit que ça, je crois qu'on serait pas là ce soir pour parler d'elle. Et la critique est mauvaise. Bon, ça arrive dans la vie d'un créateur, d'un écrivain. Sauf qu'il y a une critique qui est décisive, hein, une critique qui ressemble en quelque sorte à une mise à mort. C'est celle qui lui est adressée par Victor Shklovsky, dont on a déjà parlé puisqu'elle a écrit avec lui Zoo ou la troisième Héloïse. Et Victor Shklovsky lui dit que elle possède moins bien sa langue, autrement dit, elle écrit moins bien. Et c'est quelque chose de terrible qui va effectivement résonner en elle.
Et donc, elle va écrire. J'ai donc cessé d'écrire, puisque l'outil que je possédais s'avérait inutilisable pour communiquer avec mes lecteurs. C'était bien sûr la langue.
Alors, bon, la langue, c'est une chose, mais contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, y compris sur les bancs de l'école dans l'apprentissage des langues, c'est que la langue, c'est pas simplement une technique de communication. On transpose quand même pas comme ça une langue, on passe quand même pas comme ça d'une langue à une autre. Mais une langue, c'est une culture. Une langue, c'est une vision du monde, hein. On sait très bien, y compris dans les langues proches, par exemple de la famille indo-européenne, on sait très bien que d'une langue à une autre, il y a des mots pour désigner telle chose qui n'existe pas dans telle autre langue. Et perdre sa langue, c'est en même temps perdre son pays, c'est perdre son territoire. Et là, Maria va nous lire un extrait qu'elle ressent fortement, puisque elle est née en Italie, elle est arrivée en France à 8 ans, donc... Elle a vécu ça, et je pense que ce qu'elle va nous lire, là, elle peut le ressentir mieux que quiconque.
Oui, ce que l'on peut dire, c'est que peut-être lorsqu'on est un peu plus jeune, on apprend une autre langue parce qu'on est avec ses petits camarades à l'école, ça va tout seul. Mais je pense que la décision d'Elsa est quand même beaucoup plus forte parce que c'est beaucoup plus tard et elle avait déjà donc cette culture qui était la sienne en Russie. Donc elle note « Ma langue maternelle, mon irremplaçable langue, elle ne me servait plus à rien. Le mal de la langue est insupportable comme le mal du pays. On croirait qu'une langue, personne ne peut vous l'apprendre. Que vous l'emportez avec vous ou que vous alliez, qu'elle vit en vous, inoubliable, divine. En réalité, une langue, ça se partage avec un peuple, un pays. Vous ne pouvez la conserver au fond de vous-même. Il faut qu'elle s'exerce, il faut s'en servir, sans quoi elle se rouille, s'atrophie et meurt. Mais je n'avais plus rien à dire en cette langue.
Alors, ce cheminement qui va conduire Elsa du russe au français, il va passer par plusieurs étapes. Donc, on a vu la dernière fois qu'il y a eu, évidemment, cet événement considérable qui a été la rencontre avec Aragon. Mais dans cet itinéraire, donc, de 1900, on va dire de 1930, hein, pour arrondir les choses, jusqu'à 1938, donc, parution de Bonsoir Thérèse, il y a trois événements marquants, ou plutôt, on a retenu trois éléments marquants, qui sont le suicide de Maïakovski, ça va être un événement considérable, parce que c'est quand même une partie de la vie d'Elsa qui s'écroule. Ensuite, l'écolier, on reviendra sur cette activité qu'elle avait choisie pour sauver financièrement leur couple. Et puis, cette fameuse affaire du congrès de Kharkov qui va précipiter la rupture de d'Aragon avec le groupe surréaliste et son adhésion au communisme. Et là, les choses sont compliquées parce qu'Elsa est pas au centre de cette histoire, mais il semblerait qu'elle ait joué un rôle décisif. On essaiera de voir lequel, parce que là-dessus, les avis sont très partagés selon qu'on est surréaliste ou plutôt communiste. Alors, premier événement, bon, on va en parler rapidement parce qu'on a déjà beaucoup parlé du personnage. Le 14 avril 1930, Maïakovski se suicide. Et bon, les causes de suicide, bon, le suicide, c'est toujours extrêmement complexe. Les causes du suicide de Maïakovski, c'est moi, je penserais plutôt pour des affaires personnelles. Hein, c'est quand même un homme qui a une vie extrêmement compliquée. D'autres allèguent des affaires politiques. Bon, il est vrai qu'on est au début quand même de la stalinisation et notamment la poésie un peu rimbaldienne, romantique dont Maïakovski est le chantre. Bon, visiblement, cette insurrection permanente, ça va pas coller avec. En ce sens-là, s'il s'était pas suicidé, il aurait peut-être sans doute fini dans un camp ou quelque chose. Bon. Alors, là, je voudrais lire un extrait d'Aragon qui, je pense, a très très bien vu l'importance de Maïakovski. Voilà ce qu'il écrit. C'est un texte qui date de 1960. Un texte, je pense pas qu'on puisse toujours le trouver. Il était sorti aux éditions Messidor, donc une maison qui succédait aux éditions Sociales, enfin à l'époque du début un peu de la crise financière du Parti communiste. Et ce recueil est très intéressant. C'est Elsa choisie par Aragon. C'est paru donc en 1960. Alors voilà ce qu'il écrit. Vladimir Maïakovski est demeuré pour elle une image qui la hantera à travers les années, et bien que l'on peut voir en lui l'origine d'un thème obsessionnel, lequel se rencontre et se repère de livre en livre, si transposé que cela soit, pour qui sait lire reconnaissable, le destin du créateur, la tragédie du créateur. Et Aragon cite un certain nombre d'ouvrages où on trouve un Maïakovski transposé. Le premier ouvrage dont on parlera ultérieurement, c'est un ouvrage qui date de l'après-guerre, c'est ce livre qui s'appelle « Personne ne m'aime », où la protagoniste, c'est une chanteuse qui s'appelle Jenny, et qui vit très très mal d'ailleurs, qui va mourir. Et Aragon ajoute, donc chez cette Jenny, « chez qui j'entends les harmoniques profondes du poète ». Ensuite, évidemment, ça, on en parlera parce que Elsa a un regard très aigu sur la société soviétique. Là, c'est dans les années 50. C'est le personnage de Levska, qui est ce fameux sculpteur à qui on demande de construire une statue de Staline et qui a provoqué beaucoup de remous notamment dans les rangs communistes. Et alors, Aragon peut pas l'écrire puisque c'est un roman qui est postérieur à 1960. Mais moi, je pense à un très très beau roman d'Elsa qui va très très loin, qui s'appelle Le Grand Jamais, où elle se penche sur le destin d'un... C'est un universitaire, c'est un historien, qui est complètement trahi par ses disciples. Évidemment, on sait que Staline, quand on voit la... Parce que Lily s'est beaucoup attachée à défendre la mémoire de Maïakovski. Et Staline a fait des mouvements d'aller-retour du genre c'est le plus grand poète soviétique et puis ensuite on revient dessus, on l'oublie, enfin. Et cette défense de la mémoire du créateur, c'est quelque chose vraiment de fondamental. Alors les deux sœurs, parce que évidemment Lily est la compagne de Maïakovski, et donc voilà ce qu'elle écrit. Après sa mort, donc c'est le 15 avril, le lendemain, hein, elle écrit à Elsa.
Je ne comprends absolument rien, comme c'est insupportable. Elsa répond le 28 du même mois, je rêve de lui toutes les nuits sans exception. C'est très dur.
Alors cet événement va soulever une émotion considérable. On a vu dans les émissions précédentes que Maïakovski était très présent à Paris, hein, où même il réussissait cette gageure quand même de dire, de déclamer des poèmes en russe, quand même langue qui est peu familière à nos compatriotes, devant un public complètement extasié de voir cette théâtralité extraordinaire qu'il avait. Et André Breton, dans le numéro 1 de la revue « Le surréalisme au service de la Révolution », avant c'était « La Révolution surréaliste », et il y a quand même un fait significatif de l'évolution du groupe, « Le surréalisme au service de la Révolution ». Et André Breton écrit un très 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 bel hommage, bon qui serait très long, trop long à lire ici, sur André Breton. Et par ailleurs, Maïakovski. Et par ailleurs, Aragon, lui qui est toujours, beaucoup de gens sont extasiés sur son courage physique et sur sa volonté de donner des coups de poing. Aragon va casser la figure à un russe blanc, hein, on va dire, qui écrit dans les nouvelles littéraires de l'époque et qui a sali Maïakovski, bon, qui l'a diffamé. Et donc Aragon est allé casser la figure. Ah, ça se pratiquait bien, hein, les surréalistes étaient très physiques pour ça, hein, c'est peut-être des choses qui nous manquent aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Ça c'est donc la première cause qui a, et puis alors ce que j'ai pas dit, c'est que quand même tout au long de sa vie, Elsa va écrire plusieurs livres sur Maïakovski, des souvenirs personnels, une anthologie de la poésie russe, donc Elle écrit en français, mais elle abandonne quand même pas cette culture qu'elle va diffuser en France, hein. C'est quand même très important. Alors ça nous amène à la deuxième, au deuxième événement, qui est l'écolier. Hein. Il faut dire que je crois d'ailleurs qu'Aragon vivra de ses droits d'auteur à partir de la Semaine Sainte, donc c'est 1958. En 1958, donc il a 61 ans, hein, c'est pas, il est quand même pas reconnu comme ça d'emblée. Donc début des années 30, ils galèrent un peu, hein, tous les deux. Bon, Aragon en 1930, il a écrit que des recueils de poèmes. Hein, on sait que la poésie, ça fait pas vivre son homme. Hein, bon, il faudra attendre un petit peu plus tard, 33, 34, pour qu'il commence à écrire des romans qui trouveront un public plus nombreux. Bon, Elsa, elle travaille pas encore, hein, bon. Donc, elle décide de fabriquer des colliers. Alors, je voudrais lire un témoignage sur cette période, qui vient d'un écrivain, qui faisait partie du groupe surréaliste, qui s'appelle André Thirion, qui s'appelait, hein, parce qu'il est disparu maintenant. Et ce livre, qui date de 1972, s'appelle « Révolutionnaire sans révolution ». Moi, je l'avais lu, je me souviens, je l'ai lu en 72. Et cet ouvrage fourmille d'anecdotes, quoi, sur le groupe surréaliste. C'est pas un ouvrage de grande réflexion, mais vraiment, on trouve beaucoup de choses. Et il se trouve qu'André Thirion était très proche, à l'époque où il vivait rue du Château, était très proche de Breton, de Sadoul, puisqu'il faisait un peu de la colocation. Enfin bon, tous ces gens-là vivaient ensemble. Alors voilà ce qu'il apporte, un témoignage que je trouve intéressant. Elsa avait l'esprit pratique. Elle n'était pas paresseuse. Elle eut l'idée de fabriquer des colliers pour la haute couture. Elle imagina des bijoux de fantaisie faciles à réaliser, avec des perles, des tresses, des anneaux de galatite, etc. Elle inventa de très jolis modèles qui eurent tout de suite beaucoup de succès. Vort, Molineux, Chanel, Piguet, Schiaparelli. Alors, Maria, je crois que tu peux nous dire des choses sur ces gens-là qui sont pour certains oubliés.
Alors, Wirth était quelqu'un qui avait inventé les défilés de mode, hein, ce qui n'est pas rien non plus. Chanel, bien sûr, Coco Chanel, que tout le monde connaît. Et c'était déjà à cette époque-là très pointu ce qu'elle faisait, donc les colliers qu'elle choisissait. Mademoiselle, donc, demandait des choses importantes. Et puis Piguet, et puis Schiaparelli, qui était une romaine, oui, tout à fait.
Contemporaine d'ailleurs d'Elsa, ces dates sont approximativement. Oui. Je les ai relevées, c'est 1890-1975, donc elle est vraiment, Elle est contemporaine.
Alors, pour la petite parenthèse, avant de continuer, c'est que les modèles de toutes ces personnes existent encore, hein, sont au Musée de la Mode à Paris. Et l'année dernière, la mairie de Paris, qui organise souvent de très, très belles expositions, avait donc mis en espace beaucoup de modèles de ces artistes. Et c'était absolument superbe. Et on retrouvait des colliers.
Donc, elle inventa de très jolis, je reprends le texte de Thiaillon, de très jolis modèles qui eurent par suite beaucoup de succès, donc je passe sur les noms des gens dont on vient de parler, qui les introduisirent donc dans leur collection. Elsa monta rue Campagne Première, donc ils habitent rue Campagne Première, là où on a inauguré une plaque en décembre dernier, un petit atelier. Dès que les colliers avaient été montrés dans les collections, Aragon allait les proposer rue Paradis, dans les maisons de commission aux acheteurs étrangers. Il se fit faire une valise de commis voyageurs. Je l'accompagnais plusieurs fois rue Paradis. L'habileté commerçante d'Aragon était stupéfiante, au point d'en être gênante, car il avait pris toutes les manières des vrais représentants. J'étais assez choqué de voir l'auteur d'Anisset, contraint pour vivre de s'abaisser ainsi, et il me déplaisait qu'il pût jouer aussi bien un rôle aussi servile. Alors je voudrais quand même ajouter que dans la séparation qui va suivre du groupe surréaliste, Thiaillon est resté du côté surréaliste, et je pense que cette phrase anticipe la servilité que les surréalistes prêtaient à Aragon dans sa relation au Parti communiste. Hein. Donc faut quand même nuancer sur cette servilité. Alors, et là, il va se passer alors un événement absolument décisif, c'est que dans le but de faire connaître, c'est quasiment une enquête ethnologique, hein, de faire connaître les mœurs parisiennes des grands couturiers, des bijoutiers, Elsa écrit un livre qui s'appelle L'écolier. Et elle l'écrit en russe. Et ce document, ben, je l'ai lu en préparant cette émission, ce document est vraiment c'est pas un roman, hein, c'est vraiment une enquête, quoi, une enquête, un récit extrêmement précis, avec ce sens du réalisme qu'Elsa mettra d'ailleurs dans des romans ultérieurs. Et par exemple, pour Huguette Bouchardeau, elle n'hésite pas à dire que pour elle, c'est un des sommets de l'œuvre littéraire d'Elsa, qui vraiment, et c'est vrai, on va vous en lire un extrait. Mais alors, il se trouve, alors c'est là où il y a l'événement décisif. Il est écrit en russe, donc elle l'envoie à Moscou, et aucun éditeur russe ne veut le publier. Et alors ça va être dramatique, parce que cette pauvre Elsa, elle ne le verra jamais publier, son roman, puisque au moment de... Donc elle meurt en 70, les œuvres romanesques croisées ne sont pas encore achevées, hein, 42 volumes, et Aragon va demander à Léon Robel, qui est un traducteur, enfin un slavophile, un russophile... connu dans les milieux qui étudient le russe, Léon Robel va être le premier à traduire ce roman qui paraîtra dans le volume 40 en 1972. Alors on va vous donner un petit échantillon donc d'une description d'Elsa effectivement sur les boutiques élégantes de Paris, etc.
Les boutiques élégantes de Paris et les grands couturiers, arbitres des élégances, sont en liaison avec le sentier et le temple. Les dessinateurs de mode et les modélistes qui travaillent pour ces magasins et ces maisons de couture vont dans les antres obscurs où sur de grands panneaux on peut lire « Vente en gros » et sur des petits noms d'artisans et de façonniers. On appelle modélistes à Paris ces gens qui inventent les marchandises à la mode. Ils sont les auteurs de toutes les nouveautés, de tous les nouveaux modèles. Les artisans qui réalisent ces idées d'après des croquis, des maquettes ou tout simplement les explications du modéliste sont appelés à Paris des façonniers. Il y a des façonniers en métal, en bois, en matière plastique. Les modélistes vont chercher les façonniers au sentier ou au temple. Ces artisans, outre leur habileté à façonner, doivent encore avoir celle de se taire. En effet, il importe plus que tout qu'ils n'aillent pas montrer le modèle qu'ils exécutent à un concurrent. Tout modèle nouveau est entouré d'un profond mystère afin de n'être pas copié avant la sortie.
Mais oui, Elsa n'oublie pas non plus le côté tout de même politique. Mmh. Et bon, par exemple, une notation donc sur l'Union soviétique.
L'Union soviétique inspire ici une sainte terreur. Mais on s'intéresse quand même à la question de savoir s'il n'est pas possible d'y faire des affaires. Ce milieu déplaît à Elsa. Elle s'y sent étrangère et se réjouit de le quitter. Je crois, j'espère que j'ai dit adieu pour toujours à ces dames et à tout ce qui est décrit plus haut. Le sens de l'humour ne sauve pas toujours. Parfois, on en a la nausée. Il va falloir bientôt retourner dans ce Paris au poil hérissé, si gentiment accueillant pour les riches visiteurs. Il va falloir encore chercher une échappatoire qui permette de subsister à côté de l'autre travail, du métier pour millionnaire.
Donc voilà sur ce texte L'écolier, juste pour clore avec ça en disant que c'est le quatrième et dernier texte d'Elsa écrit en russe.
Je vous propose donc une pause musicale qui n'est pas directement liée au collier, mais si on l'écoute bien, texte d'Aragon, Les Fourreurs, qui a quand même un certain rapport avec le sujet.
C'est un sale métier que de devoir sans fin, n'étant coupeur de bourse. Bonneteur, charlatan, montant l'air aigre fin, vendre la peau de l'ours. On demeure parfois pendant des jours entiers tout seul dans sa boutique. Et cette odeur de peau qu'il faut que vous sentiez n'est pas très romantique. La martre Zibeline, allez, c'est plus joli sur Madame en Paccard que quand le paradis chlorobenzène emplit le nez et les placards. L'opossum à la fin, c'est tout aussi lassant que la loutre marine. Oh, qui dira l'ennui qui prend le commerçant derrière ses vitrines. Quand je pense pourtant aux perceurs de plafond dont la vie est si dure, au cinéma j'ai vu comment ces gens la font et Dieu sait si ça dure. À ceux qui pour avoir le respect du milieu et de belles bottines livrent leurs sœurs cadettes à de vilains messieurs pour des prix de famine. Je me dis caressant mes descentes de lit, mes manchons, mes écharpes, qu'il ne faut pas céder à la mélancolie et se joindre aux escarpes. Qu'un magasin vaut mieux que de faire en prison des chaussons de lisière, et mieux 100 fois brosser les manteaux de visan que buter les rentières. Mieux lustrer le renard que d'aller proposer l'héroïne à temps l'once. Mieux chez soi demeurer où sont entreposés le castor et le sconce. Et puis qu'on ait ou non vendu son chien, Sheila, son Hermine ou son phoque, il vous reste du moins cet amer plaisir-là, vituperer l'époque, vituperer l'époque, l'époque.
Nous venons d'entendre Léo Ferré interpréter Les Fourreurs, Louis Aragon pour les paroles, Léo Ferré pour la musique, bien entendu. Et nous retrouvons Maria Berlioz et Jean Knopf pour nous parler d'Elsa Triolet dans la suite de notre émission.
Alors, on va arriver à un événement qui a suscité beaucoup de commentaires, qui est le fameux congrès de Kharkov. Alors, ce fameux congrès de Kharkov, c'est en fait le congrès international des écrivains révolutionnaires qui se tient à Kharkov en novembre 1930, Kharkov étant à l'époque, jusqu'en 1934, la capitale de la République socialiste d'Ukraine. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une histoire, j'ai envie de dire, c'est une histoire de fous. Parce que le protagoniste, ça va être Aragon, mais on a chargé Elsa des pires turpitudes. Alors, si on situe, en essayant de retrouver la vérité historique, Elsa et Aragon forment un couple. Donc, Elsa, elle veut absolument introduire Aragon dans son milieu. Donc, il projette un voyage en Union soviétique. Ils partent en août et ils reviendront le 15 décembre. Donc, c'est un voyage complètement privé, un voyage familial, quoi, quasiment. Et il se trouve qu'arrivé là-bas, il découvre, alors je sais pas précisément comment, il découvre donc l'existence de ce congrès. Et Elsa, qui a, faut pas l'oublier, ça on l'a dit au début, qui a quand même beaucoup de relations dans les milieux littéraires, Elsa va décider, va faire inscrire, elle connaît les deux organisateurs du congrès, elle va inscrire Aragon comme représentant de la France avec Georges Sadoul, parce que Georges Sadoul les a rejoints. Bon, c'est une histoire un peu rocambolesque. Il a des problèmes avec la justice française parce qu'il a insulté je sais plus qui. Donc, il est parti au pays de la Révolution se faire protéger. Donc, elle inscrit Aragon et Sadoul au congrès de Kharkov. Aragon, fidèlement, loyalement, envoie un télégramme, un texto, si vous voulez, à son ami Breton, qui le charge effectivement de défendre cette idée, parce qu'il y a un conflit en France. Hein. Faut pas oublier que tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, il n'y a pas que la droite et la gauche comme ça qui s'opposent, mais il y a un conflit à l'intérieur de la gauche, dans la mouvance communiste, dans le rapport des artistes avec le communisme, c'est quelle littérature faire. Donc il y a un groupe qui est le groupe d'Henri Barbusse. Hein, Henri Barbusse, qui est l'écrivain de la guerre de 14. J'ai d'ailleurs vu qu'il vient d'entrer, je crois, cette année, au programme de la Grecque de lettres, la Grecque de lettres moderne, avec son roman principal, Le Feu. Hein. Roman Le Feu, qui est, bah, comme son titre l'indique, un roman incendiaire. Et des fois, les adversaires, d'ailleurs, sont pas très fins, puisqu'il obtient le prix Goncourt, ce qui fait que, finalement, beaucoup de monde le lit. Mais Barbusse, il est dans une mouvance qui est celle du néo-naturalisme, un peu, bon, c'est du Zola, c'est cette tradition-là, et les surréalistes sont très opposés à cette tradition littéraire. Donc, il y a cette lutte d'influence, et ce que veut Breton et ce que veulent la plupart des surréalistes, y compris Aragon, c'est la reconnaissance du surréalisme comme étant... chacun cherche un peu le côté officiel, hein, le surréalisme serait la littérature officielle du communisme. Bon, donc Aragon est chargé de ça. Il prononce deux discours au Congrès, discours complètement conformes à ce qui a été décidé entre Breton et lui. Il est tout content de lui et il télégraphie à Breton, ici, succès complet. Sauf que... Alors, c'est vrai que là, au milieu, on ne sait pas ce que devient Elsa. On sait pas si j'arrive pas à trouver le renseignement de ce qu'elle fait à ce moment-là. Il signe un texte avec Sadoul, mais à l'époque, Aragon qui apprendra le russe, bon, il est au début de sa relation, il sait pas encore le russe, il signe un texte auquel il ne comprenne rien, dans lequel il renie, un, le surréalisme, deux, le freudisme, et trois, le trotskisme. Bon, ils sont quand même tout contents, et ma foi, bon ben la vie continue. Alors eux, ils restent. Ça va pas leur rendre service non plus. Surtout à Elsa, ils continuent leur voyage. Ils visitent aussi des kolkhoz, des sovkhoz, enfin le paradis communiste de l'époque. Et donc ils rentrent à Paris à la mi-décembre. Mais les surréalistes sont au courant du texte. Ils ont eu la traduction du texte. Alors premier conflit. Conflit avec le groupe surréaliste où Breton et Éluard sera très virulent hein, dans cette histoire. C'est même lui qui va charger de l'exécution littéraire d'Aragon. Hein. Il y a deux poèmes d'Éluard très... Il y a Paillasse et Certificat qui sont des mises à mort terribles d'Aragon. Hein, bon. Et ils lui disent « Mais où tu en es ? Est-ce que t'es toujours avec nous ?» Alors Aragon, c'est l'époque, c'est le numéro 3 de la revue « Le surréalisme au service de la Révolution ». Écrit un texte en disant que le surréalisme, c'est la révolution, etc., etc. Bon, un texte de justification. Deuxième chose, le Parti communiste, qui à l'époque est quand même sous l'influence de Marty, qui est un communiste qui a participé, le seul d'ailleurs à l'époque, dans à ce niveau de responsabilité, qui a participé à la révolution de 17, hein, c'est quand même pas rien, hein. Le Parti communiste met Aragon en accusation en disant « Mais qu'est-ce que t'es allé faire en Union soviétique? Personne t'a mandaté pour aller là-bas. » Donc Aragon se trouve mis à pied, quoi, en quelque sorte, de son parti, hein. Et je relève un bref extrait de ce qu'il raconte au moment de la publication de l'œuvre poétique. Donc c'est dans les années 70. En janvier 1931, je venais d'être mis en procès dans ma cellule. On suspectait ce voyage. Qu'est-ce que j'avais été faire là-bas? Qui m'avait autorisé d'y aller? Je vous passe cette histoire. Elle se résume simplement pendant 9 mois. C'est-à-dire jusqu'en octobre 31, j'ai été pratiquement, sinon officiellement, mis à la porte de mon parti. Alors c'est vrai que le jeu d'Aragon, comme souvent, hein, c'est aussi le personnage, il n'est pas toujours très très clair. En janvier, il veut aussi, donc il tape des deux côtés, quoi, hein, le surréaliste d'un côté, le Parti communiste de l'autre. Et à l'époque, le Parti communiste a une stratégie, on est avant Thorez, hein. À une stratégie qui est celle du classe contre classe. Alors Aragon, pour donner allégeance, il écrit un texte qui s'appelle « Front rouge », qui est un long poème, et il est inculpé, donc par la justice française, d'excitation de militaires à la désobéissance et de provocation au meurtre dans le but de propagande anarchiste. En plus, il est taxé d'anarchisme, ce qui va pas arranger les choses. Alors je vais quand même vous lire un petit extrait de Front Rouge, parce que on n'entend plus des textes comme ça. Descendez les flics, camarades, descendez les flics. Plus loin vers l'ouest, où dorment les enfants riches et les putains de première classe. Dépasse la Madeleine, prolétariat, que ta fureur balaye l'Élysée. Tu as bien droit au bois de Boulogne en semaine. Un jour, tu feras sauter l'arc de triomphe. Prolétariat, connais ta force. Connais ta force et déchaîne-la. Feu sur Léon Blum. Feu sur les ours savants de la social-démocratie. Feu, 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 vous dis-je. Voilà, alors... ça... Bon, c'est sûr que ça provoque... Alors, là, ce moment, il va être clé, parce qu'on va se trouver... On va se trouver un nœud de deux conceptions de la poésie. Breton défend son ami Aragon au nom de la liberté de la création, mais juge, et ça c'est décisif parce que ça pose directement la question qu'est-ce que l'art, qu'est-ce qu'écrire, qu'est-ce que la poésie. Il juge ce poème poétiquement régressif. Breton déteste Front Rouge parce que il a une idée de la poésie, alors bon, dans les débats, certains disent idéaliste, c'est-à-dire que la poésie n'a pas à être engagée au sens où, depuis Sartre, on prend ce thème d'engagement. Alors que Aragon affirme, et là, on va voir une évolution d'Aragon que partage Elsa, je pense d'ailleurs, c'est que toute poésie, toute littérature, tout art est toujours de circonstances. Et moi, je pense là-dessus que Aragon prend vraiment, là il y a un mûrissement, il prend vraiment une position marxiste, quoi, en termes d'art. Non pas pour dire que l'art doit obligatoirement parler de la dernière grève ou bon, mais que automatiquement, ben, l'art il est fait de l'histoire de l'artiste qui produit, puis l'histoire du temps dans lequel il vit, hein. Bon, bien sûr que Picasso, on imagine mal Picasso à la Renaissance italienne, par exemple. Bon, bien sûr, hein. Mais il y a cette position, très franche quand même entre entre ces deux positions. Et ben là, on va voir une, surtout depuis la publication là de la correspondance récente, c'était l'année dernière. Les lettres entre Breton et Aragon, puisqu'il y avait une interdiction, fallait attendre 50 ans. Donc voilà, 50 ans après la mort de Breton, et ça a été publié par Gallimard. Et c'est vrai que ces deux hommes étaient très liés, et je pense qu'Aragon s'est jamais complètement remis de cette rupture. Et donc le rêve d'Aragon, là se brise, et donc il entre massivement dans le communisme, quoi. Alors, l'histoire, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Parce qu'il y a Elsa là-dedans. Mais on fait que parler d'Aragon, là, on parle pas d'Elsa. Mais les surréalistes, se sont mis à charger, et Breton en particulier, se sont mis vraiment à charger Elsa. Alors je vous lis un court extrait, puis après on essaiera de démêler quel a été le rôle exact d'Elsa. Voilà ce qu'écrit Breton. Alors il a donné à France Culture dans les années 60 des entretiens où il revient là-dessus. Ce voyage, qui allait être lourd de surprises et de conséquences, n'est-il nullement de l'initiative d'Aragon, mais bien d'Elsa Triolet, qu'il venait de connaître et qu'il conviait à l'accompagner. À distance, et telle qu'elle s'est définie par la suite, il y a tout lieu de penser qu'elle imposa et obtint là-bas ce qu'elle voulut. Alors, il y a même des gens qui sont allés plus loin, notamment plutôt du côté de la littérature bourgeoise ou simplement de la presse bourgeoise, en disant qu'Elsa était une espionne soviétique. Hein, bon, Et donc elle devient tout d'un coup la femme maudite qui a détourné le brave héros RAUT, hein, le brave héros du surréalisme, quand même un des trois fondateurs du mouvement. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur ce rôle d'Elsa?
Alors, toutes ces accusations semblent très éloignées de ce qu'était en réalité Elsa à l'époque. D'ailleurs, Aragon confie à Jean Ristan en 1975 « Quand je l'ai connue, Elsa ne lisait jamais les journaux. Et comme je m'en étonnais, elle m'expliqua qu'elle n'y comprenait rien parce qu'elle ne connaissait pas ce qu'elle appelait le commencement du feuilleton, c'est-à-dire ce qui avait été dit auparavant. » On a aussi une réflexion de, et puis qui a été écrite par Lily Marcoux, hein, qui a écrit la biographie, oui. Et alors elle affirme ceci. Elsa ressemble plus à cette époque à Françoise Sagan qu'à Rosa Luxembourg.
Et je pense que ça, c'est juste.
Ouais. C'est une bourgeoise cultivée qui fréquente les milieux littéraires. Elle aime le confort, les voyages, s'amuser, séduire. Tout cela, nous l'avons assez dit. Elle appartient certes à une bourgeoisie éclairée qui a la haine du tsarisme, mais elle n'est pas une bolchevique. De ce point de vue, Aragon a raison d'affirmer qu'Elsa n'est pour rien dans son évolution politique. D'ailleurs, lui a adhéré au Parti communiste français en janvier 1927, et on avait dit pour la petite plaisanterie que c'était le jour des rois, mais en fait c'est une réalité.
7 janvier, je crois.
7 janvier. Soit plus d'un an avant d'avoir rencontré Elsa, Aragon, en quête d'une reconnaissance littéraire qui passe par la Révolution, à l'image de Maïakovski, se jette éperdument dans le mouvement communiste, fidèle jusqu'à en partager les erreurs. On le saura bien plus tard, tout ça.
Et ça, on en parlera dans la prochaine émission. L'évolution décisive d'Elsa vers la politique, vers la chose publique, très indépendamment d'ailleurs du Parti communiste, hein, puisque Elsa n'a jamais appartenu à aucun parti. L'évolution d'Elsa Triolet va avoir lieu dans la lutte antifasciste, c'est-à-dire à partir de 34-35, également ce voyage dont on parlera. Parce que ça, on en parle assez peu, mais c'est un texte que la Société Aragon a édité récemment. Ce voyage en Espagne, hein, ce voyage en Espagne qu'ils font avec deux écrivains allemands pour amener du ravitaillement, qui sera très important parce que ça va être la rencontre avec d'autres intellectuels, en particulier avec leur grand ami Pablo Neruda, qui rencontre à Madrid, puisque Pablo Neruda a été consul à Barcelone, puis ensuite ambassadeur du Chili à Madrid. Et tout ça, ça va consolider un tissu. Alors, si on revient sur ce rôle d'Elsa, qui a été chargé de beaucoup trop de choses, moi j'aime bien cette... quand on demande à Pierre Juquin, donc, qui est l'auteur de cette monstrueuse biographie d'Aragon en je sais pas combien, 2000 pages, 1500 pages, enfin bon. Quand on lui pose la question qu'est-ce qu'a apporté Elsa à Aragon, il répond toujours le continent russe. Et ça, je trouve que Elsa, par son attachement culturel, hein, culturel à la Russie, elle va abandonner le russe, mais elle ne va pas abandonner son sa culture, quoi, et sa culture dans ce qu'elle a de plus. Je pense, par exemple, que même si Aragon connaissait, parce que ce qu'on sait de lui dans sa jeunesse, son appétit de lecture, sa boulimie de lecture, mais elle lui amène quand même toute une tradition qui passe, par exemple, par un romancier comme Tolstoï. Hein, on sait que Tolstoï, par exemple, pour les Russes, c'est Balzac, quoi. Enfin, c'est Balzac chez nous. Et Aragon, donc, il va avoir sa période d'écriture réaliste. Hein. Je pense que Elsa le conforte là-dedans. Alors, il y a sans doute un élément personnel, parce que les histoires de personnes, ça joue. C'est vrai qu'Elsa n'aime pas les surréalistes, n'aime pas leur débrailler, je dirais. Et en particulier, elle déteste Breton. Ça, c'est vrai qu'entre Breton et Elsa, il y a une inimitié totale. Alors, d'ailleurs, on a recherché avec Maria parce que Elsa, elle en dit rien de cette histoire de Kharkov. Alors, qu'est-ce qu'on a comme document? On a son journal, puis on a sa correspondance avec Lily, qui nous apprend beaucoup de choses. Et là, elle dit pas grand-chose, hein. Elle dit pas grand-chose. On a trouvé une réaction de Lily. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Lily? Ce qui est arrivé à Aragonchik, hein, parce qu'ils se donnent toujours des petits noms, c'est marrant. Ce qui est arrivé à Aragonchik est chez nous chose si courante que je ne peux considérer cela tragiquement. Hein, ils sont habitués, bon. Bien que je le plaigne terriblement, il a entièrement tort, bien sûr, d'être découragé et d'avoir tout abandonné. Et puis après, Elsa, elle parle plus de rien. Et dans une lettre à Lily, donc au moment où quand même il est traduit en justice, elle dit « Le poème d'Aragon est poursuivi en justice. » Pauvre point, c'est tout, aucun commentaire. Et évidemment, il s'agit de Front Rouge. Donc je pense, comme on fait souvent déjà, on n'est pas dans l'ère des médias dans lequel on baigne, mais il y a un peu de ça, quoi. Donc je pense qu'il y a finalement beaucoup de bruit pour... mais que le choix, il est celui d'Aragon. Mais bien sûr, ça correspond aussi à ce qu'ils projettent, enfin leur projet commun, quoi. Hein, je pense qu'il y a ça.
Pas simple, hein.
Non, c'est pas simple.
Pas simple. Cette thèse qui consiste à dire que dans le couple, la vraie communiste, c'était Elsa, ça tient, ça, ou pas du tout? Ou c'est peut-être plus tard que c'est survenu comme ça, non?
Moi, je pense, mais enfin, bon, ça, c'est en travaillant, c'est parce qu'en même temps, la vision qu'on a de l'un et l'autre, elle bouge, hein, je vois au fur et à mesure des émissions, par exemple, elle bouge. Je trouve qu'Elsa, elle a sans doute beaucoup plus de clairvoyance. Moi, un livre que je trouve extraordinaire, c'est Le Monument, quoi. Elle a beaucoup plus de clairvoyance sur ce qu'est le stalinisme. Alors qu'Aragon, lui, il fonce, quoi. Bon, il va y avoir notamment, vraiment, au milieu de la grande période stalinienne, il soutient des choses. Bon, chez nous, à la salle à être, souvent, on défend ça, mais enfin, bon, il y a quand même des trucs difficiles.
Vous avez du mal.
Difficiles à avaler. Je sais pas, même l'affaire Lysenko, donc, qui est après-guerre. Ouais. Il y a un article d'Aragon, moi, que je trouve sidérant, quand même. Aragon, il a fait des études de médecine. Pour un scientifique. Donc, ce serait un littéraire. On disait, bon, ils ont une inculture scientifique telle que, bon, c'est normal. Mais lui, c'est pas le cas, quoi. Je pense quand même que chez Aragon, il y a cette ambition de devenir le grand poète, enfin le grand écrivain du communisme, quoi. C'est son projet, c'est ce qui justifie les attaques quand même de ceux qui c'est un peu l'interprétation de Bougnot, quoi, disant que la famille, il la retrouve dans le parti communiste. Bon, c'est un peu réducteur, mais c'est pas complètement faux non plus, quoi, parce qu'il va quand même très loin, alors qu'Elsa, Elsa, elle, est beaucoup plus critique, quoi. Elle, son combat, c'est contre le fascisme. Et puis, pour la culture et pour le livre. Hein, d'ailleurs, en ce sens, elle a des positions qu'on peut dire plus humanistes. Alors, si les humanistes sont bourgeois, bon, il faut la mettre dans le paquet des...
Les humanistes bourgeois.
Mais je pense qu'elle a beaucoup. Et alors, ça, c'est, je crois que c'est le peintre Boris Tatsliski, j'ai un peu de mal avec son nom, qui a raconté à Pierre Juquin avant sa mort que lui, il était convaincu de ça, il les a bien connus, que Aragon sans Elsa, ça n'allait plus, quoi. Et je pense qu'elle a quand même, elle lui a beaucoup servi de. C'est vrai que le moment sur Alice, d'ailleurs, bon, ils ont été durs, mais Breton, après, il est pas mal allé dans l'ésotérisme. Bon, Éluard, il a compris, il a rejoint quand même le combat antifasciste. C'est vrai que Breton, moi je trouve le Breton de l'époque sur Alice, Monadja, par exemple, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Mais faut quand même reconnaître qu'après, bon. Au moment de la lutte contre le fascisme, on peut pas dire bon, ils s'en vont tous. Enfin, lui et quelques autres, bon, Benjamin Perret, par exemple, quand il a le culot d'écrire le déshonneur des poètes, bon, quand même pendant la résistance, c'est quand même gonflé d'écrire un truc pareil. Alors qu'il était au Mexique,
tranquille.
Ah oui, c'est quand même un peu gros, quoi. Et ça va nous amener.
Alors, donc, il nous reste 5 minutes. On a le temps de faire une pause musicale. Vous avez encore beaucoup de choses à dire.
On aurait à parler de Bonsoir Thérèse.
On va quand même faire une petite pause musicale pour soulager nos auditeurs.
Et puis, oui.
Allez, avec un texte de. Enfin, pas un texte, une chanson, un texte de Gil Vic qu'il a écrit à partir de situation des romans d'Elsa Triolet, mis en musique par Philippe Gérard, interprété par Jeanne Moreau. Ça s'appelle « Tout ce que je veux ».
Ce que je veux, si je le voulais, comblerait mes voeux, si l'on en voulait. Tout ce que je veux, mais l'on veut pour moi, et je perds mon temps à chercher qui sait, qui m'en veut assez pour vouloir pour moi, sans vouloir de moi. Sans vouloir de moi, sans vouloir de moi. De moi, de moi, de moi.
Donc en 1938, cette série d'événements conduit Elsa à écrire « Bonsoir Thérèse », qui est son premier roman. D'ailleurs, roman, c'est Robert de Noël, l'éditeur, qui l'a intitulé roman. En vérité, il s'agit d'un recueil de nouvelles, puisqu'il y a 5 nouvelles dans « Bonsoir Thérèse ». La dernière fois, d'ailleurs, on vous a lu un extrait de l'une d'elles, « La femme au diamant ». Et c'est très bien écrit. Il y a beaucoup de choses qui vont préfigurer Elsa. Maria va nous lire un extrait de la nouvelle qui s'appelle justement Bonsoir Thérèse.
Je vois Thérèse. Elle s'avance entre les tables. Je connais cette robe qu'elle porte. Je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Thérèse n'est pas grande. Elle a des cheveux clairs. Elle est un peu grasse. Où est-ce que j'ai déjà vu cette femme ? Elle sourit. Je vois 2 dents pointues. Je connais ce grain de beauté. Elle se coiffe comme moi. Elle a mon parfum. Bonsoir Thérèse. C'est ma voix qui répond.
Donc voilà, ce bonsoir Thérèse donc renvoie à cette découverte d'Elsa qui va s'assumer. Le roman donc paraît en 38 et la critique, elle trouve un critique qui deviendra célèbre, il l'est pas encore, puisque c'est Jean-Paul Sartre qui fait la critique de Bonsoir Thérèse dans la revue Europe. Et je voudrais, pour finir, parce que je pense qu'avec Bonsoir Thérèse, Aragon découvre Elsa, en quelque sorte. Il la découvre en tant qu'écrivain, puisqu'elle a écrit Bonsoir Thérèse en cachette. Et pour finir, je voudrais lire cette chose qui va sceller vraiment leur union. Et je pense que c'est le début du couple mythique que vont constituer Aragon et Elsa. J'ai dit 100 fois, et je répète ici, que sans elle, je me serais tu. J'avais bien conscience de l'influence déterminante sur ce que je m'étais remise à écrire. Mais le mécanisme de cette influence m'échappait. Que c'était son débat intérieur, son drame propre, la connaissance intime des mystères de la création. Je croyais me regarder dans son miroir. Je ne savais pas que c'était elle que je voyais. Voilà, je crois que c'est le début vraiment de ce qui se confirmera par la suite, notamment au moment de la Résistance.
Donc ces mots vont conclure notre 7e émission consacrée à Elsa Triolet. On se retrouvera dans quelques temps pour une 8e. Le thème, ce sera...
L'entrée en politique et puis l'entrée dans la Résistance, quoi, directement, puisque ce sera le point d'aboutissement... Le mûrissement vers cet engagement vraiment d'Elsa, et puis les nouvelles de les demoiselles d'Avignon, etc.
Merci Maria, merci Jean, et puis à bientôt.
Bonsoir à tous.
Thank you.